on s'arrête sur un mot devenu un incontournable. Populisme. Populisme de gauche, populisme de droite, régime populiste, argument populiste. Le terme semble à la fois désigner un contenu et une manière de faire de la politique. L'autre élément frappant, c'est que certains mouvements se réclament ouvertement du populisme, s'assument, mais que souvent le terme garde une connotation péjorative. Commençons ce chemin en allant rencontrer une historienne et une politologue, Caroline Sagesser. Elle est chercheuse au CRISP, le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. Je lui demandais si, pour les chercheurs, une définition précise et commune du populisme existe.
Il peut y avoir des accords sur ce que ça recouvre également. Donc une définition très générale, c'est-à-dire que c'est un mouvement politique qui veut effectivement rendre l'ensemble du pouvoir au peuple vu comme une espèce d'entité homogène et toujours pure, qui aurait toujours raison face à des élites qui sont perçues comme étant corrompues. Maintenant, j'ai l'impression que ces 20-30 dernières années, le mot populisme est utilisé non pas pour désigner un programme politique, mais plutôt pour désigner une forme de communication politique. Cette façon dont la forme est parfois privilégiée par rapport au fond. Et puis alors, il y a effectivement toute cette communication politique qui passe désormais par les réseaux sociaux, où finalement, elle doit prendre des formes extrêmement ramassées, alors qu'autrefois, c'était au long de longues interviews fleuves dans les quotidiens qu'on développait ses propositions, sa pensée politique. Donc ça permettait quand même, je crois, autrefois plus de nuances. Aujourd'hui, il faut faire mouche avec une petite phrase. Et donc forcément, il y a ce côté, cette dérive populiste où effectivement, on fait simple finalement. Donc dans le populisme, aujourd'hui, il y a plutôt cette critique démagogique d'un monde politique qui ferait plus simple pour être sûr d'être compris de l'entièreté du peuple.
Pour Caroline Sagesser, le populisme est donc un phénomène très large. Le mot est comme devenu synonyme de simplisme ou de démagogie. Mais cette définition étendue, que nous utilisons beaucoup, n'est pourtant pas la plus courante dans les livres de sciences politiques et les universités. La plupart des chercheurs et académiques considèrent que ce qui définit le populisme est un programme politique qui oppose un peuple, considéré comme majoritaire, aux élites, minoritaires. Aux élites ou à autre chose.
Alors, bon, qui dit populisme dit toujours opposition entre d'une part le peuple ou le peuple authentique d'une part.
Philippe Van Parijs, philosophe, professeur à l'UCL.
Et puis autre chose, et cette autre chose, c'est souvent l'élite, hein, l'élite politique, l'élite économique, parfois l'élite intellectuelle, hein, et parfois aussi alors les éléments étrangers, hein, les immigrants, les minorités ethniques, etc. Hein, donc peuple versus l'une ou l'autre de ces deux choses, et parfois les deux. Donc, populisme, c'est ça, et donc c'est un discours, un mouvement, hein, qui défend les intérêts de ce peuple, réel ou imaginé, contre les intérêts de cette élite ou contre les concessions qui sont faites à ces minorités ou à ces étrangers.
Le programme populiste est donc toujours fait d'une opposition binaire entre un peuple considéré comme homogène et des élites ou d'autres minorités. Souvent, dans le populisme, on retrouve aussi une vision autoritaire du pouvoir et souvent du nationalisme. Mais comme beaucoup de mots et de concepts, la signification du populisme a évolué au cours des siècles.
D'un point de vue historique, le populisme, ça a renvoyé à des mouvements d'une part en Russie et d'autre part aux États-Unis à la fin du 19e siècle.
Justine Lacroix est professeure d'histoire de la pensée politique et de théorie politique à l'ULB.
Mouvement agraire en Russie qui visait au fond une sorte d'alliance entre la paysannerie et l'intelligentsia, et qui étaient des mouvements éminemment démocratiques, qui participera à la révolution d'octobre avant d'être éliminé par Lénine, par les léninistes, et qui est vraiment une conception très démocratique, pas du tout nationaliste. Donc ça, c'est le premier mouvement historique. Deuxième mouvement historique, c'est à la toute fin du 19e siècle, ce qu'on a appelé le People's Party, qui était un mouvement aussi venu des campagnes aux États-Unis, qui visait au fond à rendre la représentation beaucoup plus démocratique. Et c'est là qu'est né le concept de populisme, qui ne sont pas nationalistes, qui ne sont pas autoritaires, qui ne sont pas socialistes dans la mesure où ils ne cherchent pas à renverser les structures de production de la société, mais qui visent une beaucoup plus grande inclusion de la population, qui visent au fond à démocratiser les structures de pouvoir et à rendre la représentation plus démocratique.
Donc le terme populisme n'a pas toujours été une insulte ni un terme péjoratif. La signification du populisme s'est donc renversée. À droite, ou à gauche d'ailleurs, certains assument d'ailleurs l'appellation de populisme, ou refusent en tout cas de la cantonner à une définition péjorative. C'est le cas de Xavier Dupré, économiste et marxiste assumé.
En fait, le populisme, c'est le courant politique qui va dénoncer l'oligarchie, les gros, au nom de la majorité du peuple, opprimer les petits. Alors, cette définition du populisme, on peut la contester en disant, attention, il y a dans le populisme une essentialisation du peuple face à une essentialisation des élites. J'ai toujours envie de dire, attention, n'attirons pas trop l'attention sur l'essentialisation du peuple, on en oublierait presque le fait que les élites, elles, sont homogènes. Il y a déjà dans cette manière de décrire le populisme une façon de se positionner politiquement contre le populisme. Les élites sont très homogènes. Lorsqu'on voit qu'il y a à peine, je crois, 400 ou 500... En fait, tous les énarques de France seraient passés par les 400 ou 500 mêmes écoles maternelles. C'est dire à quel point les inégalités, ça commence tôt dans la société. Pierre Bourdieu l'avait déjà vu. Et à l'époque, déjà, on n'employait pas le mot populiste à l'époque. On parlait de démagogie ou de gauchisme. Et on le taxait de démagogie et de gauchisme. Pourtant, ça s'est vérifié. Ça se vérifiait statistiquement. C'était de la science.
Pour Xavier Dupré, le populisme peut, dans certains cas, être à la base de la démocratie ou d'un mouvement de démocratisation. Il cite le cas du régime de Perón en Argentine, un régime survenu après la Deuxième Guerre mondiale.
Perón est un populiste, qui est un grand dirigeant politique argentin, qui a fondé une doctrine, le justicialisme, qui n'a de vigueur qu'en Argentine, et qui est de la contestation de l'oligarchie, qui était à l'époque les quelques propriétaires terriens. En 1945, ils devaient détenir 80% du patrimoine de l'Argentine, environ 1000 ou 2000 personnes. Cette contestation-là, au nom des masses opprimées, parmi lesquelles il y avait à la fois des ouvriers, là c'est presque marxiste, mais aussi de la petite bourgeoisie. Et là, on est sur un autre registre politique que celui de la lutte des classes, d'où populisme. Le populisme, en fait, il faut en analyser la pertinence par ce qu'il dénonce. Le populisme ne propose plus, il dénonce une oligarchie. C'est un style de dénonciation. Alors cette dénonciation peut donner lieu, en Amérique latine, ça a été le cas, à la naissance d'un peuple démos. Avec une vraie démocratisation de la société, voilà pourquoi la gauche, même parfois non marxiste d'ailleurs, s'allie avec les populistes. En Europe, elle ne donne pas pour l'instant. Le populisme n'est pas un titre dont on peut se revendiquer fièrement. C'est très clair, puisque le peuple dont accouchent les populistes en Europe est très nettement un ethnos. C'est un peuple ethnique qui se définit dans le rejet, notamment de l'immigration. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que, d'ailleurs, qu'un des marqueurs du populisme en Europe, en Amérique latine, c'est l'islamophobie, par exemple.
Quel est donc ce peuple qui se cache dans le populisme? C'est peut-être la question principale à laquelle nous mène notre petite enquête. Au nom de quel peuple parle le populiste?
La difficulté que j'ai aujourd'hui avec le concept de populisme,
Justine Lacroix,
c'est que finalement, il s'est diffusé quoi, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, je dirais à peu près, et qu'il a fini par désigner un petit peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire aussi bien des États qui deviennent de plus en plus autoritaires, on pense ici à la Hongrie d'Orban, et puis de l'autre côté, des mouvements qui visent quand même à démocratiser la société, comme Bernie Sanders aux États-Unis, Podemos en Espagne. Je pense que là, c'est lié peut-être à l'ambiguïté du mot populisme, mais qui renvoie en réalité à l'ambiguïté du mot peuple. De qu'est-ce qu'on entend sous le mot peuple? Est-ce qu'on entend une communauté homogène qui est réunie derrière un leader? Ce serait une forme de populisme autoritaire. Ou est-ce qu'on entend une pluralité qui cherche, au fond, à éliminer les formes de domination? Et moi, j'en suis presque au point de croire qu'aujourd'hui, le terme de populisme n'est plus très pertinent ou opératoire dans l'espace public parce qu'il désigne vraiment des choses beaucoup trop différentes.
En conclusion, le mot populisme est un mot risqué. Voilà un mot dont l'histoire a rimé à la fois avec progrès et démocratie ou avec réaction et dictature. Puisque des significations contradictoires lui sont assignées, il nous faudrait sans doute l'utiliser avec beaucoup de prudence. Et en tout cas, toujours se poser la question, qui est donc le peuple qui se cache dans le populisme ?